Radio Prague, les informations.
Bienvenue sur Radio Prague. Le ministère tchèque de l'éducation risque de perdre des millions d'euros de fonds européens. Les sondages sur le choix des électeurs lors du prochain scrutin présidentiel placent l'ex-premier ministre tchèque Jan Fischer en première position. Décès du vice-président du Sparta Prague, Lukáš Přebil. Ce vendredi, le commissaire européen pour l'emploi, les affaires sociales et l'intégration, László Andor, a averti le ministre de l'Éducation, József Döbés, que son ministère pourrait perdre des millions d'euros de fonds européens en raison de la mauvaise gestion de projets européens. Le commissaire László Andor a montré du doigt les erreurs commises, notamment l'utilisation de ces fonds pour d'autres projets que prévus. Il a appelé le gouvernement tchèque à prendre des mesures immédiates et effectives sous peine de renoncer aux fonds. József Döbés a fait savoir qu'il avait conscience de la gravité de la situation et a promis des mesures dans les semaines à venir. Le commissaire européen a fait savoir que de nouvelles discussions décisives seraient tenues en mars. Alors que le Sénat a adopté mercredi dernier la loi sur l'élection du président de la République au suffrage direct, les premiers sondages sur le choix des électeurs lors du prochain scrutin présidentiel qui doit avoir lieu en 2013 sont publiés dans la presse nationale. Selon les résultats d'une enquête réalisée par l'Institut de sondage Median, l'ancien premier ministre par intérim Jan Fischer recueillerait un tiers des voix. Un électeur sur six voterait pour l'économiste et candidat malheureux des élections présidentielles de 2008, Jan Schweinar. Selon les propos tenus par le président du parti Affaires publiques, Radek Yon, lors d'une conférence de presse donnée ce vendredi, les ministères des Affaires étrangères, de la Justice et des Finances sont responsables des erreurs commises dans la gestion de l'affaire de la privatisation de la société minière de Most. Selon Radek Yon, de sérieux soupçons portent sur le fait qu'au milieu de l'année 2010, les ministres des Affaires étrangères et des Finances n'auraient pas communiqué au ministère de la Justice la proposition des autorités suisses de se joindre à la procédure pénale à l'encontre des responsables de la privatisation de l'entreprise d'État. Depuis le début de l'année, la République tchèque s'efforce d'apporter de nouvelles preuves à l'appui du dossier à charge afin de débloquer les milliards de couronnes que les autorités suisses ont gelées dans les différentes banques du pays. Une sculpture en cire représentant un cœur doit être installée sur la Piazzetta du Théâtre National ce vendredi en mémoire de l'ancien président Václav Havel, disparu fin décembre. La sculpture a été réalisée par deux artistes, Lukáš Gavlovský et Roman Švejde, à partir de la cire laissée par les milliers de bougies déposées par les Tchèques sur les places principales de tout le pays. La sculpture est haute de 2 mètres et pèse plus de 2 tonnes. Et la sculpture pourrait y rester jusqu'au mois d'avril en fonction de la météo. Le corps sans vie de Lukáš Přebil, 33 ans, vice-président du club du Sparta Prague, a été découvert jeudi dans un bureau du stade du club tchèque. Une autopsie judiciaire a été ordonnée. D'après le porte-parole de la police pragoise, Lukáš Přebil n'est pas mort de mort violente. La cause du décès sera connue dans quelques jours. Ancien journaliste à la télévision, Lukáš Přebil aurait pu mourir, d'après les médias tchèques, en raison de problèmes respiratoires. Comme annoncé ce vendredi par les dirigeants du Sparta, le club a pris la décision de ne pas annuler ses prochains matchs. Côté météo, samedi, jour de la fête des Božena, le ciel en République tchèque sera dégagé. Les températures maximales seront comprises entre moins 10 et moins 6 degrés en plaine, moins 13 en montagne. Les météorologues s'attendent à ce que la nuit de samedi à dimanche soit la plus froide de l'hiver dans le pays. Les températures les plus basses devraient être enregistrées dans les massifs où le mercure pourrait descendre au-dessous de moins 40 degrés. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková.
Faits et événements en République tchèque.
Les hommes tchèques auront 3 ans pour désavouer leur paternité. 50 ans se sont écoulés de la mort du peintre et graveur tchèque Max Švabinský. Tels sont les thèmes de la première partie de notre émission. La suite sera réservée à notre rubrique économie-commerce, dans le cadre de laquelle Anne-Claire Veluire vous entretiendra d'une initiative qui a pour objectif de permettre aux petits artisans tchèques et slovaques de trouver une clientèle sur le net. Merci de rester avec nous et bonne écoute. « Les hommes tchèques pourront prochainement contester leur paternité jusqu'à la troisième année de l'enfant. C'est ce que prévoit l'amendement à la loi sur la famille qui a été définitivement adopté mardi par la Chambre des députés. Le texte, qui constitue une petite révolution dans la législation tchèque, doit encore être signé par le président de la République tchèque avant d'entrer en vigueur, probablement dès le mois de mars. Guillaume Narguet.
Selon la loi qui était encore en vigueur l'année dernière à la même époque, les hommes tchèques devaient entreprendre les démarches visant à établir légalement qu'ils ne sont pas les pères biologiques d'un enfant dans les 6 mois suivant la naissance de ce dernier. Toutefois, en juillet dernier, la Cour constitutionnelle avait décidé d'annuler ce délai de 6 mois, et ce à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 2011. Le temps pour les législateurs de penser à un nouveau texte de loi. À l'époque, la Cour constitutionnelle avait estimé que la loi constituait une atteinte aux droits des hommes doutant de leur paternité. Malgré le veto opposé par le Sénat, la Chambre des députés a donc modifié la législation comme cela lui avait été réclamé. Selon l'amendement en question, les hommes tchèques disposeront prochainement de 2 années et demie supplémentaires pour contester leur filiation parentale. Afin de le faire, ils devront toutefois déposer leur demande auprès du tribunal dans les 6 mois suivant le moment à partir duquel ils commenceront à douter de leur paternité. Au-delà de ces 6 mois, les hommes ne pourront plus contester leur paternité. Le délai de 3 ans constitue également une avancée pour les enfants puisque la disposition offre une marge de temps plus importante pour s'assurer de l'identité du véritable père. Comme l'explique le psychologue Jaroslav Sturma, connaître ses deux parents est essentiel pour que l'enfant puisse construire sa propre identité.
Le prolongement du délai est positif dans le sens où parfois ces choses sont tenues cachées et restent secrètes très longtemps. Certains hommes ne découvrent que bien des années après la naissance qu'ils sont ou ne sont pas les véritables pères. Le délai de 3 ans augmente donc les chances de faire apparaître la vérité. Mais il est aussi important de penser à l'enfant pour ne pas le traumatiser. Il ne s'agit pas seulement de faire reconnaître formellement le père pour établir ses droits et obligations, le contraindre à verser une pension alimentaire ou à participer à l'éducation de l'enfant.
Ce nouvel amendement prévoyant un délai de 3 ans ne devrait cependant rester en vigueur que 2 ans. En effet, la nouvelle version du Code civil, qui a été adoptée récemment par le Parlement et qui apporte des modifications notamment dans le domaine du droit de la famille, entrera en vigueur en 2014. Selon ce codex, dont l'application devrait permettre de mieux protéger les droits des personnes, les pères d'enfants nés dans le cadre d'une relation de mariage ou d'union civile auront alors le droit de contester la filiation dans les 6 années qui suivent la naissance de l'enfant.
Il y a 50 ans, le 10 février 1962, s'achevait la vie du peintre et graveur Max Chwabinski. Il quittait le monde à l'âge vénérable de 91 ans et pouvait se retourner avec fierté sur l'œuvre de sa longue existence, car il a laissé une profonde empreinte dans les arts plastiques tchèques. À l'occasion du 50e anniversaire de sa mort, une exposition de ses œuvres graphiques est présentée à Kroměříž, sa ville natale, un des plus beaux sites de Moravie. Jeune, Max Chwabinski ne manquait ni de talent ni de confiance en lui. C'est ainsi qu'il a évoqué dans sa vieillesse son examen d'entrée à l'Académie des Beaux-Arts à Prague.
J'avais la certitude d'être reçu. Lors de l'examen, j'étais le premier à achever le dessin d'un nu masculin. Et quand j'ai vu la manière dont les autres étudiants regardaient mon travail, je n'avais aucun doute sur le résultat de l'examen. J'ai été effectivement reçu avec une mention honorable et je suis entré dans la classe du professeur Maximilian Pirner.
Le professeur Maximilian Pirner, peintre influencé par le symbolisme romantique, sait apprécier et cultiver le talent du jeune Morave et le marquera aussi par son influence artistique. Le rapport entre le professeur et son disciple se transforme peu à peu en amitié.
J'aimais beaucoup Maximilian Pirner. Au cours de mes études, j'ai fait des portraits du poète Jaroslav Vrhlitsky et de toute une série de personnalités importantes. Pirner se réjouissait de mes succès, mais un jour il m'a dit « Écoutez, vous devriez quitter cette académie. Vous n'y appartenez plus. Vous appartenez au public. C'était ma dernière année à l'Académie des Beaux-Arts, mais cela m'a pourtant fait de la peine. »
Max Chwabinski devient rapidement l'un des artistes tchèques les plus respectés et les plus admirés. Dans les premières étapes de sa création, il subit une forte influence des peintres pré-raphaélites, notamment de Dante Gabriel Rossetti, et ses œuvres reflètent aussi les tendances symbolistes de l'époque. Par la suite, il évoluera de la spiritualité à la sensualité, de la peinture symboliste au réalisme, mais son pinceau cherchera toujours à transformer la réalité en poésie. Il entre dans l'histoire des arts plastiques tchèques en tant que peintre des moments privilégiés, des moments d'extase. C'est un artiste perpétuellement ivre de vie, un poète du corps de la femme. Son idéal féminin évolue, lui aussi, passant de la beauté raffinée et spirituelle à l'image de la femme épanouie aux formes plantureuses, déesse de la volupté et de la fertilité. Il situe ses modèles dans des paysages idéaux et paradisiaques, les entoure de la flore et de la faune exotiques, et sa création devient une recherche permanente du paradis perdu. Auteur de monumentales peintures à l'huile aux couleurs éclatantes, Max Chwabinski n'en est pas moins un véritable virtuose du dessin et de l'art graphique. C'est dans ces genres beaucoup plus modestes qu'il s'est déployé son génie de la façon la plus convaincante. Par ses innombrables xylographies, eau forte et aquatinte, il jette les fondements de l'art graphique tchèque moderne, dont il restera le maître inégalé. Dès l'âge mûr, le peintre se tient à l'écart des courants artistiques qui révolutionnent les arts plastiques du XXe siècle. Fidèle à lui-même, il n'abandonne jamais l'art figuratif et ne cède pas à la tentation abstractionniste. Sa place dans l'histoire des arts plastiques tchèques n'est pas celle d'un novateur, mais d'un artiste à l'ancienne qui a eu besoin pour sa création non seulement de l'inspiration, mais aussi d'une parfaite maîtrise technique de son métier. Vous êtes toujours sur Radio Prague, émission en langue française. Cela fait tout juste 4 ans que le site flair.cz est apparu sur la toile. Son objectif, permettre aux petits artisans tchèques et slovaques de trouver une clientèle sur le net. Le site compte aujourd'hui des milliers d'utilisateurs. Michala Gregorova, chargée des relations publiques de Flair, explique le phénomène au micro d'Anne-Claire Valuire.
Économie, commerce.
Zlaté české ručičky, les petites mains dorées tchèques, est une expression bien connue de la langue tchèque qui évoque l'habileté du peuple tchèque dans le travail manuel, une certaine forme de débrouillardise mêlée au talent et la capacité qu'ont finalement les Tchèques à produire, à fabriquer, à construire des choses de leurs propres mains, pour reprendre donc la définition donnée par Guillaume Narguet dans une de ses rubriques du Tchèque au bout de la langue. Et c'est donc pour offrir un marché des artisans virtuels à ces petites mains dorées tchèques qu'a été fondé flair.cz. On écoute Michala Gregorova.
Flair est né au début de l'année 2008. Ça a commencé ainsi que le fondateur de Flair est graphiste et sa femme est dessinatrice de mode. Cela l'a inspiré parce qu'il s'est rendu compte à quel point il est difficile de vendre quelque chose que l'on a fabriqué manuellement. Soit on est dépendant des galeries qui prennent généralement de grosses provisions, ou on peut participer à des événements extérieurs, mais ce n'est pas forcément très confortable. On peut encore monter un e-shop, mais c'est difficile parce qu'il faut y faire venir des clients et cela demande des compétences techniques ou un engagement marketing. Donc l'idée est venue de fonder un marché online où tous ceux qui fabriquent quelque chose manuellement en Tchéquie et en Slovaquie pourraient proposer leurs articles, leurs produits dans un même espace. Ainsi est né Flair CZ. Le nom du domaine ne veut rien dire. Ça plaisait simplement au fondateur Jiří Kubeš qui en un mois a pensé à un prototype, un design et il a commencé à persuader les gens d'y proposer leurs articles.
Spustil to a začal přemlouvat tvůrce, aby tam zkusili své věci nabídnout.
Sur la page d'accueil du site, on trouve ainsi près de 20 rubriques dans lesquelles sont classés les produits. Mode, sacs, bijoux, verre, céramique, art ou même santé et beauté. Un choix donc très large, comme l'explique Michala Gregorova.
Sur Flair, il y a énormément de choses. Les seules restrictions sont que les produits doivent être fabriqués manuellement et qu'ils soient d'une certaine façon créatifs. Les produits les plus populaires sont les bijoux, les sacs et les objets relatifs à la décoration d'intérieur. Mais il y a aussi toutes sortes d'objets artisanaux. C'est intéressant de voir cet artisanat parce que l'artisanat a commencé à disparaître doucement. Personne ne voulait plus faire des études pour être artisan. Ça avait perdu son prestige. prestige. Mais grâce à Flair, on constate qu'il y a des artisans, qu'ils soient forgerons ou charpentiers, et que l'artisanat n'est pas du tout mort. Et il y a encore beaucoup d'autres gens qui sont capables de fabriquer des objets et de les proposer.
Selon Michala Gregorova, plusieurs dizaines de milliers de créateurs utiliseraient activement cette plateforme Internet qui est visitée quotidiennement par plus de 70 000 personnes. Un vrai phénomène qui fonctionne depuis 4 ans, principalement par le bouche à oreille, mais un phénomène principalement féminin. Michala Gregorova.
En ce qui concerne les acheteurs, ce sont les femmes qui sont les plus grandes acheteuses. Je pense qu'elles représentent 90% des clients. Les hommes viennent avec plus de précautions, mais ils sont là et je sais qu'ils cherchent souvent des cadeaux pour leurs copines ou leurs femmes. En ce qui concerne les créateurs, il y a un peu plus d'hommes, notamment dans le domaine de l'artisanat traditionnel, mais ce sont quand même les femmes qui prédominent. Je ne sais pas d'où ça vient, peut-être qu'elles ont un accès plus actif à Internet. C'est difficile à dire.
Alors comment s'inscrire sur le site? Combien cela coûte-t-il? Comment cela fonctionne-t-il très concrètement? C'est ce qu'explique Michala Gregorova.
Tout le monde peut vendre si les objets remplissent les conditions minimum, c'est-à-dire qu'ils sont faits manuellement et créatifs. C'est gratuit et le vendeur paye une provision si l'objet est vendu. Cela veut dire que si vous ne trouverez pas d'acheteur, vous ne payez rien et quand vous commencez à vendre, vous payez 11% de commission sur le prix de l'objet vendu. Flair est un intermédiaire, un marché sur lequel chacun peut vendre ou acheter. C'est fait de telle façon que le client doit payer avant, puis le créateur envoie l'objet. Ceci n'est pas habituel en République tchèque ou en Slovaquie. Quand on regarde les e-shops, personne ne paye à l'avance ou seulement parfois 10% et le reste ensuite. On a fait cela parce qu'au début, il fallait convaincre les créateurs et on a pensé que ce serait une garantie pour les créateurs. Et les gens n'ont aucun problème avec ça. Cela vient sans doute du fait que pour chaque objet, vous pouvez voir le créateur, son travail et sa personnalité. Il y a un système de notation et ça marche très bien.
Sabina Uterova est utilisatrice de Flair CZ. Elle nous fait part de son expérience et de son regard sur l'artisanat tchèque.
Parce que je suis créatrice, donc j'essaie de vendre mes créations. Je fabrique des marionnettes en bois, en fil de fer. Je pense que c'est une bonne occasion que, sur Flair, voilà, d'essayer de montrer aux gens, au grand public, des créations.
Ça fait longtemps que tu connais ce site ?
En fait, je crois que ça va faire 2 ans que je connais ce site, que j'utilise plus ou moins.
Est-ce que ça marche ? Est-ce que tu as des acheteurs ?
Alors, ça marche de temps en temps, oui. En fait, moi, je pense qu'il faut vraiment être tous les jours sur Flair et travailler dessus pour voilà, de mettre des photos, des nouvelles créations pour des gens... Ils connaissent et ils voient ce qu'il y a de nouveau. Voilà, si on s'en occupe pas, ça marche pas beaucoup parce qu'on peut pas nous voir, donc c'est difficile à vendre après. Mais oui, je trouve que c'est un bon moyen de vendre des créations si on n'a pas un magasin ou.
Toi qui as un peu, donc on va dire une possibilité de comparaison entre ce qui peut se faire en France comme produits artisanaux et. Et ce qui se fait ici, est-ce que tu vois des différences notables? Est-ce que tu remarques une différence de style ou est-ce que tu retrouves plus ou moins les mêmes choses? Comment tu te vois?
Alors, moi je trouve qu'ici, en Tchéquie, on est beaucoup plus créateurs. Donc je vois des choses différentes, beaucoup plus développées, beaucoup plus, il y a plus d'idées, je trouve. Il y a beaucoup plus de gens d'ailleurs que je pense qui créent à la maison... plus de femmes ou plus de créateurs en général. Donc, ouais, je vois une grande différence.
Ce sentiment qu'il y a énormément de créateurs et de créativité en République tchèque est aussi partagé par Michala Gregorova.
Ono to je v podstatě krásný příklad jako, jako volného trhu, ale úplně...
Flair est en fait un bel exemple d'un marché libre. Comme vous le voyez, les gens ont réussi à faire un travail incroyable. On peut voir par exemple des gens qui ont commencé en 2008. La plupart au départ ne savaient pas comment présenter leur travail, comment photographier leurs objets, comment les décrire. Mais on peut voir sur le parcours de certains de formidables progrès. Les créateurs ont appris à photographier parfaitement leurs objets, à les mettre en valeur, à communiquer avec leurs clients. Grâce à Flair, de nombreuses personnes se sont créées une activité indépendante qui leur fournit un revenu régulier. Par exemple, des gens qui fabriquaient des objets à la maison, mais qui n'avaient personne d'autre que leurs amis à qui les vendre, se sont rendus compte qu'il y a une demande importante. Ça me semble être un phénomène remarquable.
Voilà, alors je vous encourage à visiter le site www.flair.cz pour découvrir tout ce que peuvent fabriquer les petites mains dorées tchèques.
C'était donc Michala Gregorova, chargée des relations publiques du site flair.cz. Ses propos ont été recueillis par Anne-Claire Veluire. Merci d'avoir suivi cette émission et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les programmes de Radio Prague en audio et en texte sur www.radio.cz/fr.